Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.
Plus les temps passent, plus on se dit qu'elle était séquestrée. Est-ce qu'elle était séquestrée et tuée, séquestrée et maintenue en vie? J'espère qu'elle soit vivante, mais en même temps, quand je me dis ça, je me dis mais vivante, mais dans quelles conditions? La disparition, c'est la chose la plus effroyable qui arrive à une famille.
Bonjour. 5 ans et demi que la famille de Tiphaine Véron entre France et Japon remue ciel et terre pour retrouver sa trace. Des proches qui ont arpenté à plusieurs reprises cette région de lacs, de forêts profondes et de brumes autour de la petite cité ancestrale de Nikko. Un décor tout autant somptueux que tragique dans lequel a disparu en une poignée d'heures la Française à l'été 2018. Tiphaine Véron n'a pour l'heure jamais été retrouvée, mais l'enquête est loin d'être au point mort. Les efforts et l'agitation incessante de la famille Véron ont permis que le dossier ne soit pas refermé et que les autorités japonaises, longtemps passives, voire inertes, prennent désormais la mesure de cette affaire. Dans les mois qui viennent, les juges du Paul Cold Case chargés des investigations devraient ainsi accéder à des informations jamais communiquées jusque-là par les autorités locales, de précieux rapports de police, des expertises scientifiques, des témoignages. Va-t-on enfin savoir ce qui s'est passé? Question posée aujourd'hui à nos invités.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, les dernières avancées de l'enquête sur la disparition de Tiphaine Véron au Japon à l'été 2018. Investigations toujours en cours et qui reviennent inexorablement sur le dernier endroit où la jeune femme a été vue vivante. Une auberge pour touristes à 150 km de Tokyo. Samedi 28 juillet 2018, autour de 15h, Tiphaine Véron, 36 ans, célibataire, assistante de vie scolaire à Poitiers, arrive avec sa grande valise couleur bordeaux à la petite gare de Nikko, une cité ancestrale sur les berges bucoliques de la rivière Daya, adossée à des montagnes couvertes de forêts où se dresse une multitude de temples. Toute l'année, les touristes se pressent ici. Ce jour-là, il pleut légèrement. La Française, qui porte un poncho en plastique bleu, marche pendant 40 minutes jusqu'à son auberge, la Turtle Inn, un peu à l'écart du centre-ville. Elle enregistre autour de 16 heures. L'hôtelière lui donne la clé de la chambre March, au rez-de-chaussée, tout au bout d'un couloir qui débouche sur une issue de secours. À 16h33, la voyageuse adresse des textos à sa famille et à ses proches. Elle indique « L'hôtel est mignon, orange, corail. La propriétaire est adorable. Elle mixe le japonais avec l'anglais. Nikko est entourée de montagnes, ville plutôt traditionnelle. Trop tard pour elle pour aller visiter les temples, d'autant plus que la pluie redouble et que le typhon Jongdari est annoncé. C'est dommage pour une ville qui s'appelle Lumière du Soleil », écrit-elle à une amie. Dimanche 29 juillet, Tiphaine Véron se réveille vers 7h du matin, horaire attesté par les relevés de téléphonie. À 8h30, elle apparaît dans la salle des petits-déjeuners de la Turtle Inn. Le propriétaire, Kinya Fukuda, se souvient de l'avoir vue vêtue d'un tricot blanc, d'un short, les cheveux attachés. Dans la salle, deux Français et un couple d'Allemands. Les témoins vont raconter avoir échangé quelques mots avec elle. Elle avait l'intention d'aller visiter les temples et les abords du lac Shuzenji. Elle portait son sac à main en bandoulière et consultait son téléphone, vont-ils préciser. Tiphaine Véron apparaît dans la salle en arrière-plan d'une photo prise à 8h41 par un client japonais. Elle aurait ensuite rejoint sa chambre. Dans ses premières déclarations à la police, le patron de l'auberge assure que la Française a quitté l'établissement juste avant 10h du matin. Il s'en souvient car il a été surpris qu'elle ne le salue pas. Il lui a souhaité de son côté une bonne journée. La cliente est sortie. Il l'a vue partir en marchant dans la rue. Il se souvient qu'à ce moment-là, la pluie s'était arrêtée. L'hôtelier dit n'avoir plus prêté l'attention à la Française jusqu'au lendemain matin, où il a été surpris par son absence. À 10h30, il est allé frapper à la porte de la chambre March. Pas de réponse. Il a trouvé la pièce vide et bien rangée. La valise et le passeport de Tiphaine étaient là. L'hôtelier n'est pas allé au commissariat. Il a juste signalé l'absence à une patrouille de police qui circulait dans le quartier. Dans les mois qui suivent la disparition, et bien que le téléphone portable de la Française n'ait jamais été retrouvé, la téléphonie contredit les déclarations de l'hôtelier. Tiphaine Véron n'a jamais quitté l'hôtel aux alentours de 10h du matin. Elle est restée bien plus longtemps dans la salle ou plus sûrement dans sa chambre branchée sur le Wi-Fi du Turtle Inn. Ce matin-là, elle consulte des itinéraires pour se rendre de l'auberge jusqu'à des temples. Elle utilise aussi un convertisseur de devises. Elle envoie un mail à son agence bancaire. Le téléphone est coupé à 11h40. Selon l'opérateur Free, qui a aidé la famille à retrouver les données, l'appareil a été éteint brutalement. À cette heure-là, Tiphaine Véron aurait donc été seule dans l'hôtel avec le patron Kinya Fukuda. Ce dernier, réinterrogé, va donner un autre horaire de la sortie de la cliente, tout en précisant que sa fille était avec lui à ce moment-là. Et voilà donc pour ces premières questions qui se posent lors des premières heures de la disparition derrière les murs de cette auberge et dans cette chambre où l'on va détecter quelques semaines plus tard du sang sur les murs. La famille de Tiphaine sur place va aller de surprise en surprise. On va en parler dans la suite de l'heure du crime. Bonjour Damien Véron.
Bonjour.
Merci infiniment d'être aujourd'hui avec nous dans le studio de l'heure du crime. Vous y êtes déjà venu plusieurs fois ici, et trop de fois j'ai envie de dire, parce qu'on a envie que cette affaire avance et qu'on ait enfin quelques éléments pour avancer dans la vérité. Vous êtes le frère de Tiphaine Véron, vous avez été omniprésent dans cette enquête depuis le début, et vous êtes l'auteur avec Sybille Véron, votre sœur, du livre « Tiphaine, où es-tu ? À la recherche de notre sœur » qui a été publié il y a quelques mois déjà aux éditions Robert Laffont. Je conseille ce livre parce que si vous avez envie d'aller plus loin dans cette affaire, c'est ce livre qu'il faut lire. Il y a toute l'enquête, en fait, qui est résumée dans ce livre. Alors, il y a une seule certitude, finalement, dans cette affaire. Et c'est bien peu, et c'est bien maigre. Tiphaine, on la voit entrer au Turtle Inn, mais personne ne la voit ressortir. C'est ça ?
Mais tout à fait, vous avez raison, effectivement. On sait d'ailleurs, vous l'avez dit, hein, elle nous envoie tout de suite des messages lorsqu'elle arrive le samedi 28 à Nico, donc au Turtle Inn. Et ensuite, dès le dimanche 29 juillet, nous n'avons plus de nouvelles. Mmh. Et vous l'avez dit, nous avons enquêté sur la téléphonie. Et effectivement, ce qu'on voit le dimanche matin, c'est qu'elle est bien dans son hôtel, jusqu'à 11h40. Et non pas...
Ça, c'est clair et net. Ouais.
Oui, par rapport à l'application Google. Hein. Ça, c'est vraiment par rapport à l'application Google, où on voit effectivement qu'elle est dans son hôtel jusqu'à 11h40. Alors, ce qui est troublant, c'est que, vous l'avez dit tout à l'heure, l'hôtelier explique qu'elle est partie avant 10h. Donc déjà, il y a une première contradiction.
Alors, l'hôtelier, encore une question, Damien Véron. L'hôtelier, il peut se tromper. Après tout, des clients, il en voit tous les jours. Il n'est pas censé prendre leurs entrées et leurs sorties. C'est pas noté dans un registre. Il a pu se tromper, mais il est un peu ennuyé, parce qu'il sait plus trop bien ce qu'il a raconté. Il va fournir plusieurs versions, même s'il a jamais été réellement interrogé sur le fond, il faut bien le dire.
Mais c'est exactement ça. Parce qu'au début, effectivement, c'est confus. Il dit, je pense qu'elle est partie vers 10h30, je lui ai dit bonne journée. Enfin, c'est pas clair. Et en fait, ah, il dit, ensuite, il change.
Ouais, et puis il dit, j'étais pas content parce que elle m'a pas dit bonjour. Ça, il le fait remarquer.
Alors oui, ce qui est plus troublant, c'est que Tiphaine a été au Japon pour parler japonais. Donc il explique qu'elle lui a dit au revoir en anglais. Ce qui est très étonnant. Elle aurait utilisé le japonais.
Oui, qu'elle parlait déjà.
Et surtout, il explique qu'elle est effectivement partie vers 10h30, alors qu'en fait, non, après vérification, c'est bien avant 10h, selon ce qu'il dit, hein, selon ce qu'il explique. Sauf que l'application Google montre qu'elle est bien dans son hôtel, pratiquement jusqu'à 11h40. Donc là, effectivement, vous avez déjà un décalage important.
Ça pose déjà des problèmes. Bonjour, maître Corinne Herman.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, également dans le studio L'heure du crime. Vous êtes avocate au barreau de Paris et vous traitez beaucoup, beaucoup trop, encore une fois, de dossiers de disparition de jeunes garçons, de jeunes femmes. Et vous êtes dans cette affaire, évidemment, l'avocate de la famille de Tiphaine Véron. On a le sentiment, maître Corinne Herman, vous connaissez bien le système judiciaire français, peut-être sans doute un peu moins le système japonais qui a l'air un peu plus flottant, ou en tout cas pas du tout le même. On n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup d'attention qui est menée dans l'enquête au début, notamment les auditions de la dernière personne à avoir vu Tiphaine, ce patron d'hôtel, il n'est pas interrogé véritablement.
Il est interrogé, mais les questions sont très succinctes. Il n'y a pas de vérification qui vont avec les questions. Ça peut aussi arriver chez nous parfois. Hein. C'est la
on peut passer à côté.
Oui, parce que on croit ce que dit la personne. S'il a un petit peu de présence, on croit ce qu'il dit. On le met pas en doute. On va considérer qu'il n'est pas l'auteur des faits et on vérifie pas vraiment. Il y a des contradictions dans même ses interrogatoires à lui et on ne vérifie pas. Mais c'est la seule chose qui est faite dans le dossier. En fait, c'est qu'à part 2-3 interrogatoires, il n'y a pas grand-chose de fait derrière.
Et ce qu'il y a de très étonnant, alors là, moi je parle côté français, mais on a l'air que en France c'est plutôt un réflexe, Corinne Herman, on perquisitionne.
On va voir la chambre où était, peut-être on fait des relevés d'empreintes comme ça, parce que c'est la mécanique habituelle.
On va aller dans la chambre, mais on va regarder comme ça succinctement, on va pas faire des expertises tout de suite. En fait, le dossier d'instruction qu'on reçoit du Japon, qui est probablement incomplet, on a très peu de vérifications, même si on nous dit qu'on en a fait beaucoup, qu'on a fait des battues, etc. On fait peu d'investigations dans l'hôtel.
Damien Véron, il y a la téléphonie, on sait qu'elle est précieuse, et vous avez travaillé avec Xavier Niel, qui est le patron de Free, et qu'on peut saluer d'ailleurs, il faut le dire, parce qu'il vous a beaucoup aidé dans cette affaire et notamment à retrouver des données. Est-ce que tout a été fait, tout a été exploité dans cette téléphonie aujourd'hui ?
Alors, vous avez raison. Alors nous, on a pu avancer sur l'application Google. Donc là, je le disais, 11h40, indique que Tiffany est probablement dans son hôtel. Et oui, Xavier Niel, on le remercie, puisqu'il nous a permis, en nous mettant en contact avec l'un de ses bras droits, qui s'occupe des réquisitions, de montrer qu'effectivement, le téléphone de Tiffany se serait cassé de manière irrégulière. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas été déchargé.
C'est-à-dire cassé. Alors, il faut bien expliquer à nos auditeurs. Il a, d'un seul coup, on l'a éteint, c'est ça, brutalement, c'est ça.
Alors, il s'est pas éteint naturellement. Donc, il a été soit cassé, soit batterie arrachée. Enfin, en tout cas, ce que montre son expertise, c'est qu'il y a eu,
un geste brutal.
Il a été arrêté de manière brutale.
Mais si ça se passe, c'est dans l'hôtel. On est d'accord.
Alors, c'est le problème. C'est que nous, vous avez raison. Ce qu'on sait, c'est que le téléphone ne marche plus à partir de 20h. Le dimanche 29 juillet. Par contre, justement, c'est pour ça que là, vont essayer de travailler sur la question du téléphone qui est assez compliquée, mais vous avez raison, il nous manque des informations entre 11h40 et 20h.
C'est compliqué, hein, Corinne Hermann, d'avoir des informations, surtout quand on est à des milliers de kilomètres de distance, c'est parfois compliqué en France, mais là c'est un autre système, il faut communiquer sans arrêt tous les jours presque.
Oui, c'est un autre système, mais c'est de la technicité. La technicité, c'est quelque chose qui peut se retracer, qui peut être retravaillé. On a des experts dans le monde, on a des experts en renseignement, et donc on va pouvoir utiliser ces experts. Il faut absolument qu'on fasse ce travail, on peut le faire d'ici. C'est ce que j'essaye toujours d'expliquer dans les dossiers internationaux. On peut le faire d'ici. En tout cas, des vérifications basiques qui ensuite vont être exportées dans le pays et où on demandera évidemment la coopération de la justice locale. Mais nos opérateurs, ils sont internationaux, donc ils peuvent nous aider.
Et la clé est peut-être effectivement dans ces téléphones. La famille va arriver sur place. La police japonaise va alors enfin se rendre à l'auberge et trouver du sang. Samedi 4 août 2018, dans la soirée, les frères et la sœur de Tiffen Véron, Damien, Stanislas et Sybille, débarquent à Nikko. Ils ont bon espoir d'avoir rapidement des nouvelles de leur sœur et de savoir ce qui a pu se passer. Les policiers locaux n'en sont qu'au début de leurs investigations et n'ont pas beaucoup d'éléments. Ils ont entendu, semble-t-il, quelques témoins, mais c'est comme si ces vérifications n'avaient pas beaucoup d'importance. La police de Nikko fait vite savoir que c'est la piste de la disparition volontaire ou plus certainement celle de l'accident qui sont privilégiées. Les enquêteurs pensent que Tiffen a pu se noyer dans un lac ou dans la rivière Daya. Les mauvaises conditions météo, le passage du typhon Jongdari auraient rendu le cours d'eau dangereux. Selon eux, son corps sera inévitablement retrouvé. La famille, incrédule, ne relâche pas la pression sur les autorités. On leur assure que tout est fait pour retrouver Tiffen. Une patrouille a été envoyée sur chaque lieu où la Française aurait pu se rendre. Le chef d'enquête de la police de Nikko reste toutefois catégorique. Tant qu'il n'y aura pas de nouveaux indices, nous ne ferons pas de recherche, affirme-t-il. Le dossier change de main, confié au commissariat central de Toshigi. Il faut attendre 9 jours pour qu'un avis de recherche rédigé en japonais et en anglais soit affiché à Nikko. Mercredi 8 août, pour prouver sa bonne volonté et son souci de transparence, la police invite Damien Véron à se rendre avec les experts dans la chambre March du Turtle Inn, là où Tiffen résidait. Jusque-là, l'hôtelier Kinya Fukuda n'a fait l'objet que d'une audition de routine. Damien et Sybille étaient allés à sa rencontre. Ils s'étaient renseignés pour savoir s'ils pouvaient contacter les clients qui étaient à l'auberge au moment de la disparition. L'hôtelier leur avait répliqué « Non, non !» Il ne faut surtout pas déranger les clients. Vêtu comme les experts de la police, Damien Véron, combinaison blanche, entre dans la chambre. La pièce est passée au luminol, un produit qui permet de détecter les traces de sang. Rien n'apparaît sur les premiers murs ni dans la salle de bain, jusqu'à ce que le produit soit projeté sur une cloison près de la porte d'entrée et d'un banc où était posée la valise de Tiffen. Des éclaboussures bleues apparaissent de manière très précise, très importante, impressionnante. J'ai l'impression que le point d'impact part du bas du mur, se souvient Damien Véron. Le produit a réagi, semble-t-il, à la présence de sang. Les policiers, tout d'abord surpris, se font circonspects. Ils vont parler de réaction chimique, mais pas forcément de présence de sang. Aucune analyse de ces traces n'a, semble-t-il, été menée.
Vendredi 10 août, une batture rassemblant une petite centaine de policiers et de volontaires est conduite sur les sites des temples où voulait se rendre Tiffen. Les rives de la rivière sont explorées sans résultat. 9 septembre, Sybille lance un appel aux touristes de Nikko. Un mois plus tard, elle interpelle Emmanuel Macron dans la cour de l'Elysée lors de la visite du premier ministre japonais Shinzo Abe. Pas d'écho. L'enquête va alors végéter. Et la famille va continuer à porter presque toute seule, il faut bien le dire, les investigations. Famille qui ne peut pas croire à un simple accident et qui va donc retourner au Japon plusieurs fois. Où on va découvrir d'ailleurs une liste de disparitions inexpliquées, de crimes non élucidés dans cette région même de Nikko. On va s'interroger même sur un tueur en série, pourquoi pas, un tueur itinérant. Tout est possible, on va en parler de cette possibilité, de cette hypothèse dans la suite de l'heure du crime. On retrouve dans cette émission aujourd'hui Damien Véron, qui est l'un de nos invités. Vous êtes le frère de Tiffen Véron et vous enquêtez au premier chef dans cette affaire. Alors, il y a ce premier voyage au Japon, moi je le trouve très riche, parce que vous allez apprendre plein de choses. On va vous montrer beaucoup d'ailleurs de choses que vous allez emmagasiner et ça va servir pour la suite de l'enquête. Quel sentiment vous avez lorsque vous rencontrez la police japonaise? On a l'impression que ça leur fait un peu peur cette histoire. C'est un peu vertigineux, ils n'ont pas l'habitude d'être comme ça sollicités.
Mais c'est exactement ça. Et surtout, c'est très clair. On arrive, ils nous emmènent près d'un lieu touristique en disant Tiffen est tombée dans la rivière, elle est tombée.
Ils sont affirmatifs.
Oui. Puis surtout, ils nous redonnent la valise de Tiffen et le soir, ils nous disent, vous pourrez rentrer chez vous, il n'y aura plus d'investigation, c'est terminé. C'est parce qu'on a mobilisé les médias japonais, que si vous voulez, il y a eu une vraie pression, qu'ensuite, ils ont été contraints de commencer à essayer de faire, mais sans faire. Vous l'avez dit, c'est nous qui avons dû contacter les témoins. On a dû commencer à mener l'enquête, parce que ne faisait
rien.
Parce
que ça bougeait pas sur place.
Ah non, mais pour eux, c'était réglé. Ils nous ont redonné la valise de Tiffen. C'était terminé. Ils nous ont dit, il n'y aura plus rien. C'est par cette pression qu'ils ont commencé à devoir bouger.
Maître Corinne Herman, vous êtes également avec nous aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes l'avocate de la famille de Tiffen Véron. Ça, c'est terrifiant parce que ça s'appelle l'effet tunnel. C'est-à-dire que... On part du principe que là, par exemple, c'est un accident, elle est tombée à l'eau, elle s'est noyée, le corps va réapparaître. C'est ce que dit la police.
Oui, c'est l'effet tunnel, c'est aussi l'effet je n'ai pas envie d'investiguer, je n'ai pas envie d'avoir de meurtres sur mon territoire, notamment de personnes étrangères qui sont des touristes, parce que ça fait quand même une mauvaise image du lieu, et donc je vais trouver une explication qui est pas forcément qui va paraître, qui pourrait peut-être calmer tout le monde, mais qui, on l'entend tout le temps cette explication, même en France, on l'entend, le corps va réapparaître, il est tombé dans la rivière, ça arrive peu. En fait, en réalité, ça arrive très peu, et donc c'est juste, je n'ai pas envie d'investiguer sur ce dossier, je n'ai pas d'éléments pour investiguer, donc je ne le ferai pas.
Et là, à l'époque, vous n'êtes pas encore dans le dossier.
Non.
Vous connaissez bien ça aussi, cette mécanique qui est écrasante pour les familles de victimes, d'autant plus à l'étranger, où on doit affronter les autorités, on doit s'expliquer quasiment, et même s'excuser parfois.
Oui. C'est une sorte de rouleau compresseur par l'autorité de la police ou de la justice, d'écarter les familles, et de trouver des moyens comme ça d'écarter les familles en disant, on va retrouver le corps, repartez, soyez tranquilles. On le connaît aussi, c'est une façon de les détourner et de ne pas faire. Quand on n'a pas envie, on ne le fait pas.
Damien Véron, je reviens vers vous, et vous en parlez dans votre livre, il y a quelques pages qui sont consacrées à cela, et j'ai cité d'ailleurs vos propos dans ce livre. Le livre, c'est Tiffen Véron, où es-tu, que vous avez écrit avec votre sœur Sybille, qui est sortie aux éditions Robert Laffont. Damien Véron, racontez-nous l'épisode du luminol, parce que ça, c'est très spectaculaire. Dans cette chambre, on vous invite à cette espèce de test pour retrouver des traces de sang. Tout le monde est persuadé qu'on va rien trouver du tout, donc vous êtes le bienvenu. Et là, il y a la surprise.
Et oui, c'est exactement ça. Alors, pour remettre dans le contexte, c'est que les Japonais, finalement, donc, ont commencé à faire quelque chose, à essayer de montrer qu'ils bougeaient devant les médias. Et notre maire de France a écrit Emmanuel Macron en disant « Vous devez nous aider puisque la police fait rien ». Et les policiers ont vu qu'il y avait eu ce tweet, ils ont été vexés. Donc le lendemain, ils nous ont convoqués à l'hôtel en disant « Vous allez voir que nous aussi, on a des capacités
d'analyse,
de faire ce que vous demandez à Emmanuel Macron », c'est-à-dire qu'il y a des experts scientifiques qui fassent des recherches. Donc je suis effectivement convoqué. On nous demande à Stan, Sybille et moi qui veut bien participer à la reconstitution, donc j'accepte. Effectivement, il m'habille en Charlotte et là on arrive dans la chambre, il me dit on va faire un test au luminol, on va vous montrer qu'on est capable de le faire et donc il n'y a pas de sang dans la chambre de Tiffen. Donc je vois que c'est laborieux, ils mettent un temps fou à fermer les rideaux pour qu'on soit dans l'obscurité.
Ils font pratiquement toute la chambre avec cette espèce de spray et ensuite cette lumière bleue. Sauf qu'à un moment donné, sur l'un des murs, effectivement, il y a des éclaboussures qui apparaissent. Et donc là, je me rappellerai toujours cette image, je suis interloqué. Et donc je vois que l'officier en face de moi est aussi interloqué que moi et il fait un oh, vous savez les Japonais quand ils sont surpris, ouais, ils ont un espèce de petit cri aigu comme ça et je le vois, on se regarde, je vois que lui est aussi surpris que moi.
Et alors, il faut donner quand même un petit élément sur la suite, parce qu'on ne sait pas ce que sont devenues ces analyses. Est-ce que vous en avez pris connaissance, vous, de ces analyses qui auraient été portées ?
5 ans et demi après, on ne sait toujours pas. Ça n'a jamais été communiqué, ça a été demandé. Il y a eu 2 CRI, il va y avoir une nouvelle CRI, donc j'imagine, évidemment, ça va être demandé. Il y a une opacité sur tout ce qui s'est passé depuis le début, mais qui est terrible.
Parce qu'on peut y retourner aussi dans cette chambre, avec des experts.
J'imagine.
On peut supposer qu'on peut retrouver encore des traces. Aujourd'hui, on fait des merveilles en matière de découverte de traces de sang. C'est très, très étonnant. Maître Corrie Hermann, là, on est face à un mur, vous nous l'avez dit, c'est parfois compliqué. Mais là, non seulement ça ne communique pas beaucoup, mais en plus, on ne transmet même pas les dossiers à la police française.
Non, on nous cache des éléments, on ne nous les transmet pas. Donc ça va être le but avec le pôle Cold Case, d'avoir, au terme de la CRI qui va être rendue, d'avoir au moins déjà la copie des éléments qui ont été travaillés par les Japonais. C'est une base sur laquelle on pourra s'appuyer ensuite pour faire des demandes X et Y. On pourrait renvoyer des experts là-bas. On pourrait, si on a l'autorisation des autorités japonaises, de nous faciliter des expertises sur place. On peut projeter sur place des experts qui pourront exploiter, en tout cas, les traces qui pourraient rester, parce qu'il reste toujours des traces. On peut venir 10 ans, 20 ans, 30 ans après, on va retrouver des traces.
On peut même nettoyer, on va trouver des traces.
Oui, même nettoyer, on trouvera des traces, oui.
Mais lorsqu'on prend un prélèvement, par exemple, je dis n'importe quoi, sur le mur, sur la peinture, on peut arriver à retrouver à qui appartient ce sang.
On peut trouver des traces de génétique, on peut d'abord établir que c'est du sang, parce que ça, c'est la première chose. On peut avoir des matières qui réagissent et qui ne sont pas du sang. Donc, il faut déjà s'assurer que c'est du sang humain. Et ensuite, effectivement, on peut retrouver des traces génétiques. Mais pour ça, il faudrait déjà savoir ce qu'ils ont fait, eux, et avoir les photos, ça nous aiderait bien.
La famille va repartir au Japon et découvrir une ville pas si tranquille que cela.
Elle a laissé son passeport ainsi que son emploi du temps dans la chambre d'hôtel, ce qui indique qu'elle n'avait probablement pas l'intention de disparaître. Si elle était tombée dans la rivière, des effets personnels auraient dû être trouvés, mais rien n'est apparu.
Août 2018, un mois après la disparition de Tiffen Véron, un crâne est découvert, à demi enfoui, dans une pelouse près des voies ferrées de la gare de Nikkō. Il n'appartient pas à la française. Quelques semaines plus tard, 2 femmes sont retrouvées sur un parking, toutes 2 égorgées. 9 octobre, un corps non identifié est trouvé à Nikkō, sur une rive de la rivière Daiwa. Impossible d'identifier ce cadavre en décomposition, ni même de savoir s'il s'agit d'un homme ou une femme. En décembre et janvier 2019, des hommes et un crâne sont signalés dans l'une des grandes forêts qui entourent Nikkō. 19 janvier 2022, un cadavre démembré est retrouvé dans une valise sur un ancien parcours de golf de la petite ville. Après analyse, il ne s'agit pas de la touriste disparue. Un enquêteur japonais privé, missionné par la famille pour examiner le dossier, recense entre 2018 et 2022 pas moins de 15 corps retrouvés et 33 agressions sexuelles sur le territoire de la préfecture de Toshigi, à laquelle appartient la cité de Nikkō. Il y a des choses qui se passent à Nikkō, il y a toute une liste d'agressions qui apparaissent. J'ai très peur que Tiffen se soit fait agresser dans les environs de son hôtel, déclare Damien Véron. On n'est pas à l'abri d'un tueur en série qui sévit dans la région, ajoute Sybille Véron. Lors des voyages sur place, la famille avait appris qu'au moment de la disparition de Tiffen, un faux guide sévissait sur les chemins des temples. Il harcelait les femmes et n'hésitait pas à poser ses mains sur elles dans certains passages isolés. Cet homme postait sur les réseaux sociaux des photos, des annonces de coins à visiter. L'une d'elles représente une chute d'eau où la Française avait justement l'intention de se rendre. Mais la Française, Tiffen, est-elle arrivée jusqu'à cet endroit ?
Et on retrouve dans cette heure du crime Damien Véron, le frère de Tiphaine Véron, qui est aujourd'hui dans le studio avec nous de l'heure du crime pour faire le point sur cette longue enquête. 5 ans et demi après la disparition de Tiphaine, et les choses sont en train de bouger, on en parle dans cette heure du crime. Damien Véron, lorsque vous retournez au Japon, lorsque vous vous renseignez, lorsque vous mettez à contribution certaines personnes pour enquêter là-dessus, la grande surprise, c'est de découvrir finalement toute cette lignée de cadavres, d'ossements qui semblent parsemer cette région. Oh, combien tranquille.
Ah non, mais tout à fait, surtout que Stéphane nous répétait avant de partir en permanence que le Japon était le pays le plus sûr du monde. Donc nous, déjà, dès les premiers jours après notre arrivée, on découvre qu'il y a un corps démembré qui est découvert, et puis après, vous avez cité...
Ah, il y a une longue liste, hein, très longue, j'ai pas tout cité.
Mais il y a une longue liste, c'est terrible, et sauf qu'il y a une opacité absolument sur tout. Donc on est complètement désespéré et très angoissé. Puisque vous l'avez dit, soit Tiphaine a été agressé dans l'hôtel, mais si jamais, imaginons qu'elle soit sortie de l'hôtel, dans les environs, vous avez raison, il y a un faux guide qui a déjà agressé des femmes, il y a un homme qui nous avait agressé en disant qu'il savait où était Tiphaine. Donc voilà, donc plus on s'élargit de l'hôtel et plus on voit qu'il y a énormément de possibilités.
C'est-à-dire que ces chemins sont dangereux, cet environnement il est dangereux manifestement, même si pour Tiphaine c'est un peu compliqué parce qu'on ne la voit pas sur ces chemins, il faut bien le répéter.
Mais oui, parce que vous n'êtes pas loin de Tokyo. Donc si vous voulez, Tokyo, il y a une sécurité à Tokyo qui est assez importante. Donc quand des gens, d'ailleurs c'est un journaliste japonais qui m'avait dit ça d'Investigation, quand des gens veulent faire des méfaits, effectivement, vous allez à Nikko, c'est pas très loin, c'est plus facile, vous êtes moins remarqué, vous pouvez vous délester d'un corps dans les bois. Ou...
C'est-à-dire que pour des prédateurs sexuels, c'est un terrain plus facile, c'est
En tout cas, on en retrouve énormément, donc oui, probablement, oui. Mais comme à chaque fois que ces demandes sont faites à la police et qu'il n'y a pas de réponse, il y a une opacité sur tous ces corps retrouvés.
Maître Corinne Herman, vous êtes avec nous également dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes l'avocate de la famille de Tiphaine Véron. Alors, vous connaissez bien le phénomène de sérialité, de tueur en série en France. Est-ce qu'au Japon, c'est la même chose? Est-ce que c'est un phénomène qui est envisagé ou pas?
En tous les cas, la sérialité est mondiale. Elle existe dans tous les pays du monde, selon des formes différentes, parce que c'est en fonction d'une culture et d'une façon comment le pays est organisé, comment culturellement on évolue. Donc, mais évidemment qu'il y a des tueurs en série au Japon. D'ailleurs, il y en a qui sont même venus sévir sur notre territoire. Mais simplement, on ne sait pas comment c'est traité là-bas. On ne sait pas comment le phénomène est envisagé et traité par les policiers ou par les magistrats, si tant est qu'ils puissent intervenir. C'est plutôt les médias qui vont nous tenir au courant de la découverte de corps, mais on ne sait pas s'ils ont été reliés, on ne sait pas ce qui a été fait. C'est une des demandes qu'on va former, effectivement, de savoir quel phénomène peut exister autour de Nikko. Je trouve que c'est inquiétant parce qu'il y a beaucoup de touristes et que ces criminels peuvent perpétrer des crimes plutôt sur des touristes parce qu'ils savent que ce sera moins investigué, mais c'est aussi dangereux pour la population locale. Donc ce serait bien qu'il y ait une analyse globale des phénomènes autour de Nikko.
Demande très importante parce que c'est très opaque, hein, finalement. Les enquêtes au Japon, là, la policière, ça communique pas. On sait pas comment ils travaillent. Ils gardent le secret là-dessus. C'est très important parce qu'on sait pas si ce dossier Tiphaine, par exemple, il a été rapproché d'autres dossiers.
Bien, c'est la question qu'on se pose, c'est la question qu'on a posée au juge d'instruction, à savoir est-ce que ces corps sont tous identifiés, est-ce qu'il y a des constantes de mode opératoire, et est-ce que parmi ces corps peut se trouver également Tiphaine, parce qu'on ne sait pas quelles sont les analyses qui ont été faites, on n'a pas de réponse, en tout cas dans le dossier d'instruction on ne l'a pas, et on n'est pas sûr des réponses qui sont données même oralement ou même aux médias.
Juste un petit mot là-dessus, Damien Véron, il y a des policiers français qui étaient allés sur place, et ils n'ont rien appris, ils ont été observateurs, c'est ça? Simplement, oui. on leur a pas donné accès au dossier.
Non, mais c'est exactement ça, oui, vous avez raison. On a montré, alors il y a la voix officielle qui expliquait qu'ils avaient quand même pu discuter avec les officiers japonais. Et en fait, un petit peu en off, on a découvert qu'ils se heurtaient au refus des Japonais de coopérer. Donc, on est chez nous, voilà.
On n'a rien à dire.
Voilà, c'est ça, on est souverain.
La famille ne relâche pas la pression. Le Japon va pour la première fois admettre ses erreurs. Mardi 14 novembre 2023, Tomikazu Fukuda, gouverneur de la province de Toshigi, accueille devant la presse Damien Véron. Le gouverneur présente ses excuses aux frères de Tiphaine et à une famille qui s'est trop longtemps heurtée à l'immobilisme des enquêteurs locaux. Pardon que Tiphaine n'ait pas été retrouvée, dit-il. Le gouverneur s'engage à alerter son ministre de la Justice et à faire en sorte que l'intégralité des documents d'enquête soit transmise aux autorités françaises. Quelques jours auparavant, la famille et les proches de Tiphaine avaient organisé une marche dans les rues de Nikko. L'objectif de ce rassemblement, c'est de montrer aux autorités japonaises qu'on est toujours là et qu'on ne lâchera rien. Lundi 22 janvier 2024, la Commission des droits de l'homme de l'ONU confirme à la famille Véron que leur demande d'intervention pour débloquer le dossier judiciaire est en cours. L'ONU répond avoir officiellement demandé aux autorités nippones de relancer l'enquête et de collaborer avec la police française. Les proches de la disparue avaient alerté les Nations Unies sur l'absence totale de réponse aux commissions rogatoires adressées par la France, notamment sur l'expertise des traces de sang dans la chambre de Tiffen. Le vrai problème depuis le début, c'est qu'il n'y a pas d'enquête criminelle ouverte au Japon et pas de véritable collaboration, avait déploré la famille. Dans cette heure du crime, Damien Véron, le frère de Tiffen Véron, est avec nous. Damien, vous êtes sans doute la personne qui connaît presque le mieux cette affaire. Vous êtes allé plusieurs fois au Japon, vous êtes vraiment, vous intervenez dès qu'il le faut. Et là, vous avez eu ce rendez-vous exceptionnel avec le gouverneur de la province de Toshigi, alors c'est qui gère évidemment la petite ville de Nikko. Et il vous a présenté ses excuses. Ça, c'est quasiment du jamais vu au Japon.
Au Japon, en général, quand vous avez des excuses publiques, c'est qu'en fait, derrière, ils expliquent qu'ils n'ont pas été à la hauteur. Donc c'est au Japon, ce signal est très 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 important. Je pense qu'ils sont dans les cordes, oui, parce que vous l'avez dit, l'ONU leur a dit qu'ils devaient enquêter, qu'ils devaient faire plus d'investigations et transmettre les dossiers d'enquête, ça n'a pas été fait. Donc si vous voulez, il y a une pression qui est mise, et puis surtout, ça fait 5 ans qu'on a une communication plutôt positive à l'égard des Japonais, donc l'opinion publique nous rejoint maintenant. Donc ils sont dans les cordes. Donc le gouverneur a fini par me recevoir, et donc de s'excuser publiquement. Donc j'espère qu'il va coopérer.
Et voilà, et ça va plus loin que ça, c'est qu'il s'engage sur son honneur, et il l'a dit publiquement, il avait convoqué la presse japonaise, donc il s'engage à donner tous les documents possibles, tout le dossier. Enfin, j'ai envie de dire, 5 ans et demi après, on va peut-être avoir un début de commencement de réponse.
Mais oui, quelle honte que ça n'ait pas été fait avant. Vraiment, c'est 5 ans de souffrance, parce qu'il suffisait au moins de transmettre, puisque là, ils ne donnent rien. Donc finalement, ils expliquent non, tout a été fait sans rien donner. Donc c'est une stratégie comme ça de dire on a fait ce qu'il fallait, mais on ne vous le dit pas. Le fait de montrer, forcément, c'est là où vous pouvez pointer le doigt sur ce qui doit être fait, vérifier, peut-être d'autres gardes à vue ou des tests dans la chambre, mais ils ont toujours botté en touche.
Donc oui, là, oui, ils sont acculés. Ça sera lu évidemment par les juges du pôle des cold case, par des gendarmes, par des policiers, donc ils ont l'habitude de ça, ils vont pouvoir peut-être détecter des éléments. Maître Corinne Herman, on voit bien le combat de cette famille Véron hein, que vous défendez, vous êtes avocate, et c'est très difficile pour les familles, dès lors qu'un crime des leurs est commis à l'étranger, de pouvoir, non pas s'imposer, mais simplement discuter, avoir des informations. Vous avez plusieurs cas comme ça.
Juste de se faire entendre, mais déjà, il y a au départ une difficulté technique qui est un drame vous tombe sur la tête à un moment X. Il faut trouver les moyens d'aller au Japon. C'est pas rien d'aller au Japon.
Tout
est
compliqué.
Il faut trouver les moyens financiers. Mmh. Il faut structurer des associations pour vous aider, pour que personne vous aide à financer ça, à trouver des interprètes, à comprendre le droit japonais, ou en tout cas comment ça fonctionne. Tout ça, c'est un parcours d'horreur. Et qui se rajoutent aux faits eux-mêmes, donc déjà c'est difficile. Puis ensuite, il faut se faire entendre aussi ici en France. C'est très important de se faire entendre en France pour qu'on puisse activer les autorités judiciaires françaises et qu'elles prennent contact avec les autorités judiciaires japonaises. Donc c'est un parcours du combattant. Mmh. Et les familles, elles ne sont pas prêtes à ça, elles ne sont pas préparées à ça. Et donc c'est extrêmement difficile. Elles ont besoin de soutien financier pour aller là-bas, de soutien financier pour avoir des avocats, des interprètes là-bas. Enfin, c'est un parcours du combattant qui se rajoute à la douleur, à la difficulté. On a l'habitude. On a travaillé sur d'autres dossiers,
oui,
on s'est rencontrés sur d'autres dossiers, c'est toujours ce parcours terrible. Les parents sont absolument abandonnés. On a aussi ce problème ici en France qui est d'accompagner les familles quand elles vivent des drames à l'étranger.
J'ai envie de dire que la chance de la famille Véron, s'il y a une chance, c'est d'avoir des enfants qui sont dans la réalité d'aujourd'hui et d'avancer
par
Internet et qui sont... Oui, c'est ça.
C'est des sacrifices terribles pour retrouver leur sœur. C'est une angoisse permanente. Il faut se faire entendre et voilà, on n'est pas les seuls non plus. Et c'est très difficile même de se faire entendre au Japon. Je voulais juste rajouter quelque
Bien
chose
sûr.
Pour le Japon. C'est que quand même, c'est un pays de l'excellence technologique et technique. Et qu'on voit qu'on est devant une police qui est vraiment du Moyen-Âge, on a l'impression du Moyen-Âge parce que ils ont quand même les moyens techniques, la technologie qu'ils ont aurait pu nous indiquer où était le téléphone de façon beaucoup plus précise. On pourrait avoir des remontées de police technique beaucoup plus précises. Donc moi je suis très étonnée, je découvre comme la famille Véron l'a découvert aussi, cette difficulté qu'on a avec des systèmes policiers, un système judiciaire
un peu archaïque, c'est ça ?
Oui, très archaïque, et avec quand même un pays qui est dans l'excellence technologique et qui pourrait nous amener des réponses.
Dernière avancée, c'est désormais le pôle des cold cases qui va piloter l'affaire.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Mercredi 18 janvier 2023, la famille Véron est informée que les juges du pôle Cold Case reprennent toute la procédure jusque-là instruite à Poitiers. Les juges Sabine Kéris et Emmanuel Ducot vont s'efforcer de récupérer l'enquête japonaise et de conduire de nouvelles expertises, notamment en matière ADN et en téléphonie. Elles pourraient se rendre, ces juges, prochainement au Japon. La famille Véron n'a jamais perdu espoir de trouver une piste qui mène à Tiffaine. Longtemps, ses proches ont pensé que la jeune femme les attendait quelque part en se posant cette question. Mais pourquoi ne viennent-ils pas me chercher ?
Depuis que le pôle a été créé, plusieurs affaires ont été résolues ou ont avancé. Donc pour nous, sachant tout ce qu'il y a à faire dans l'enquête sur la disparition de Tiffaine, c'est certain qu'on va avoir des avancées concrètes. On a beaucoup de choses à faire ici aussi et pas seulement au Japon. Donc oui, c'est plus qu'un soulagement, c'est une victoire.
Sybille Véron, la sœur de Tiffaine, c'était en février 2023 sur BFM TV. On est avec Corinne Herman aujourd'hui dans l'heure du crime, avocate au barreau de Paris et avocate dans cette affaire de la famille de Tiffaine Véron. On le dit toujours, le Paul Cold Case, c'est le dernier recours, mais c'est un formidable espoir. Qu'est-ce que peut faire le Paul Cold Case dans cette affaire ? Alors, il y a beaucoup de choses, mais par exemple l'ADN. L'ADN, on n'a pas l'impression qu'il y ait beaucoup de choses qui aient été faites au Japon.
Alors, il n'y a pas eu beaucoup de choses faites au Japon. En tous les cas, on ne les connaît pas. Et c'est vrai que le Paul Cold Case, il a d'abord des moyens différents. Il va pouvoir se projeter plus facilement sur les lieux. Donc, au Japon, on a deux magistrats qui ont des moyens pour intervenir, qui ont des moyens techniques aussi très importants. La première chose, c'est d'exploiter la procédure qui nous a été transmise dans l'état dans lequel elle est. Et on voit beaucoup de choses à retravailler et qu'on peut retravailler en Europe, puisqu'il y a des témoins qui peuvent se retrouver dans divers pays occidentaux en Europe, qu'on peut entendre.
Les entendre ou les réentendre,
c'est ça ? Les entendre pour certains, les réentendre pour d'autres, mais ils n'ont pas vraiment été entendus. C'était parfois juste un coup de fil des policiers. Même pas. Un petit coup de fil, deux, trois questions, alors que apparaissent déjà dans ces auditions des contradictions très importantes, notamment avec l'hôtelier. Donc, ça va être aux policiers français de reprendre ces éléments-là, de les analyser, de les traiter, de retraiter cette information avant de se projeter sur le Japon, de demander des explications aux Japonais, ou en tout cas des actes d'investigation, ou le droit de venir investiguer avec eux. Mais en tous les cas, il est évident qu'un pôle national qui a cette force-là va pouvoir plus facilement se faire entendre des autorités consulaires japonaises pour obtenir des autorisations et aller sur les lieux et effectuer des vérifications. Mais il y a des vérifications qu'on peut faire déjà en Europe, en Occident.
Et justement, Damien Véron, vous parliez tout à l'heure de la valise de Tiffaine. Les autorités vous la donnent tout de suite. Et là, prenez ses affaires. De toute façon, on retrouvera le corps et puis on vous tiendra au courant. Là, on est au tout début, cette valise, elle n'a jamais été expertisée, véritablement.
Elle a été saisie, elle est restée 5 ans dans un...
Ça y est, vous l'avez transmise au...
Elle est restée 5 ans dans un placard chez notre mère. Donc voilà, en fait, c'était ça, on est passé près du fiasco.
Vous ne l'avez pas touchée, elle n'a pas été ouverte,
etc. Non, on l'a gardée soigneusement, hein, mais c'est là, on est passé tout près du fiasco judiciaire. C'est-à-dire que déjà, vous l'avez bien évoqué, côté japonais, on n'avait pas de réponse. Mais en France, un peu plus, on allait avoir un non-lieu. Donc on n'allait même pas avoir de réponse sur les choses qui auraient pu être faites de France. Heureusement, on est sauvé. Corinne Herman nous a sauvé avec le transfert du dossier de Tiffaine au Paul Cold Case, où là au moins ces choses vont être faites. On sait que ça va être difficile au Japon. On l'a évoqué tout à l'heure. Vous pouvez pas arriver comme ça dans un pays et vous imposer. Mais on va avoir déjà des réponses sur tout ce qui peut être fait. Donc pour nous, évidemment, c'était une grande nouvelle.
Corinne Herman, il est nécessaire que les juges et les enquêteurs se rendent au Japon. C'est très important.
C'est très important qu'ils se rendent au Japon pour constater, pour voir les lieux déjà. Rien que pour voir ce qu'on appelle les scènes de crime, on le fait en France, il faut vraiment aller voir les lieux, comprendre comment ça fonctionne.
Ce qui permet parfois d'éclairer tout de suite.
Tout à fait, ça permet d'avoir un regard différent, mais effectivement, il faut traiter avant un certain nombre d'éléments, comme la valise, comme les vêtements. Tout ça, ce sont des choses qu'on peut faire en France. Entendre des témoins, entendre des touristes qui ont croisé Tiffaine. Peut-être qu'il y en a d'autres qui peuvent nous envoyer des photos ou des témoignages. Et après, quand on a toute l'information, oui, il faut aller sur les lieux, voir les lieux, rencontrer les autorités, parce que forcément ça va donner, ça va entraîner des réactions.
Ça va nourrir le dossier,
oui,
évidemment.
Oui, puis ça va entraîner des réactions. Peut-être qu'on aura plus envie de collaborer avec un juge qui se déplace, et puis on sait que probablement il y aura aussi de la presse qui va se déplacer, donc ça fera forcément avancer les choses.
Et vous espérez, ça c'est un peu une question juridique, mais qu'ils auront les moyens d'investiguer les Français là-bas, plus que la dernière fois, c'est-à-dire les moyens de peut-être de demander de nouvelles expertises, d'y participer?
Bien sûr, si on se déplace et si le juge se déplace, ça va être pour avec les moyens nécessaires pour demander les analyses qu'il faut, en tout cas pour effectuer les prélèvements nécessaires, avec l'accord des autorités japonaises. On espère qu'ils vont collaborer.
Damien Véron, je vais terminer cette émission avec vous parce que, chapeau d'abord à la famille Véron, parce que vous vous êtes battu dans ce dossier et que vous le portez depuis le tout début, ce dossier. Si vous n'aviez pas bougé, évidemment, on serait allé au non-lieu, puis le dossier serait perdu aujourd'hui, parti dans les oubliettes. Vous le portez toujours, ce dossier, en famille, sur vos épaules, tous les jours, vous y pensez, vous voyagez, vous vivez pour Tiphaine aujourd'hui.
Oui, complètement. C'est un dossier qui est lourd. Le fait déjà qu'il y ait le pôle, c'est un soulagement, puisque des choses vont être faites de France, on aura des réponses, des pistes vont être fermées. Après, nous, malheureusement, on continue aussi à s'activer. Les enquêteurs privés ont un rôle à jouer aussi.
Bien sûr.
Parce qu'ils essayent de leur côté de faire ce que la police ne va pas faire. Mais oui, c'est un combat long. Sybille, ma sœur, est journaliste, donc elle nous a, dès le début, par sa rigueur journalistique, à l'habitude des investigations, nous a orientés, nous a appuyés. Donc oui, c'est une véritable enquête qui est menée. On travaille dur. On a été entendu par le pôle, donc c'est vraiment une grande nouvelle. Alors maintenant, ce qui va être important aussi, c'est qu'on compte sur nos élus. Emmanuel Macron s'était engagé à ce que facilite les déplacements, donc ça y est, on y est.
Il faut le relancer. Et j'espère que l'Élysée écoute cette émission et que ils sauront que évidemment on les attend au tournant, comme on dit. Merci beaucoup Damien Véron et maître Corinne Herman d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, rédactrice en chef Justine Vigneault, préparation Marie Bossard, Priscille de Gueffier. Réalisation Nicolas Godet.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.